VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour. Le président burundais a officiellement reporté l'élection présidentielle après des semaines de protestations suscitées par sa décision de briguer un troisième mandat. Le point avec Nicolas Pinault.
Le décret a été publié ce mercredi et appelle aux urnes tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi. L'élection des sénateurs au scrutin indirect aura lieu le 24 juillet, selon le texte. Ce nouveau calendrier suit ainsi les recommandations de Dar es Salaam. Les chefs d'État de la sous-région avaient alors recommandé un report de 6 semaines des élections au Burundi, en proie à une contestation contre un possible troisième mandat de Pierre Nkurunziza. L'opposition et la société civile burundaise dénoncent toujours une rupture des accords d'Arusha et de la Constitution. Faux, répondent les partisans du président, qui devrait, sans réel adversaire, être réélu aisément le 15 juillet prochain. Reste à savoir dans quelles conditions ce scrutin va se dérouler, puisque des membres de la commission électorale ont démissionné. L'Union européenne a suspendu sa mission d'observation, tout comme l'Église catholique burundaise qui a retiré tous ses membres des CENI locales. Autre défi financier, l'État burundais a lancé une souscription nationale car les partenaires internationaux comme la Belgique ont gelé le financement du processus électoral en signe de protestation. Ce mercredi est encore resté calme dans Bujumbura, les quartiers contestataires étant toujours quadrillés par la police.
Un gendarme malien a été tué dans une attaque attribuée à des djihadistes à Misenyi dans le sud du pays, près des frontières ivoiriennes et burkinabées, une première dans cette région. Le gendarme a été identifié à l'AFP comme étant l'adjudant Bachaga Konem par un ministre sous couvert de l'anonymat. Selon un élu local, une trentaine de djihadistes ont pris un temps le contrôle du camp militaire et tué un gendarme. D'importants mouvements de population sont signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Roger Bion.
Selon Radio Okapi, plus de 10 000 personnes ont fui leur domicile à la suite des affrontements entre les forces armées congolaises, les FRDC, et la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRP. Ces violences sont survenues dans la collectivité de Walendo-Bindi, dans le district de l'Ituri en province orientale. Les déplacés, en majorité des femmes et des enfants, auraient trouvé refuge dans les localités de Sorodo et Bukiringi, à environ 100 km de leur milieu d'origine, où ils vivent dans des familles d'accueil. La majorité de ces déplacés passerait la nuit à la Belle Étoile, faute d'abri.
Selon l'agence France Presse, la société britannique Soco aurait acheté un officier congolais impliqué dans une série de violences contre des opposants à ses projets d'exploration pétrolière dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo. L'AFP cite à cet effet un communiqué de l'ONG Global Witness. L'organisation non gouvernementale britannique a publié sur son site internet la reproduction de 4 chèques émis par Soco le 15 mai 2014 au bénéfice d'un major des forces armées de la RDC posté au sein de la réserve naturelle de l'Est du pays pour un total de 15 600 dollars. Global Witness a également publié ce qu'elle présente comme un reçu signé par l'officier pour ses 4 chèques ainsi qu'un autre daté du 30 mai 2014 par lequel le major accuse réception d'un montant de 26 650 dollars supplémentaires. Ces documents montreraient, affirme Global Witness, qu'en dépit de ces démentis répétés, Soko aurait payé des dizaines de milliers de dollars à un officier de l'armée accusé d'avoir soudoyé et intimidé ceux qui s'opposent à l'exploration pétrolière dans le parc des Virunga. Au Rwanda, une éventuelle modification de la Constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 fait couler beaucoup d'encre. Mais, contrairement aux autres pays africains, au Rwanda, peu de voix s'élèvent pour l'instant contre cette éventualité. Les partisans du pouvoir, qui saluent le succès économique du pays, ont même organisé une pétition pour exiger une révision constitutionnelle. À Kigali, la capitale, on écoute le reportage de Bagassi Koura depuis Kigali, la capitale.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier au pouvoir depuis plus de 20 ans achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali, Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017. Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains. À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagassi Koura, Kigali pour VOA Africa.
Néanmoins, tout le monde n'est pas pour la modification de la constitution Rwanda. L'opposition fait valoir que la pétition est une simple manœuvre du parti au pouvoir. 4 blessés mercredi près du célèbre temple de Karnak à Louxor, dans le sud de l'Égypte, dans une attaque qui a échoué, a annoncé la police. 2 des assaillants ont été tués. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président Barack Obama devait annoncer cette semaine l'envoi de jusqu'à 500 conseillers militaires supplémentaires et la création d'une nouvelle base en Irak afin de former les forces gouvernementales et leurs alliés et les aider à combattre les djihadistes de l'État islamique. Ces renforts s'ajouteront aux 3000 conseillers formateurs américains déjà déployés dans le pays. La nouvelle base militaire devrait être installée près de la ville d'Abania, dans la province d'Anbar, à l'ouest de Bagdad. Et à l'occasion de son ultime visite au Proche-Orient, le chef d'état-major interarmes, le général Martin Dempsey, a voulu réassurer Israël quant à la poursuite de l'aide militaire américaine, notamment face à l'Iran. Washington aidera l'État hébreu à améliorer ses défenses aériennes et son programme de missiles, a dit le général Dempsey, qui va quitter son poste à Washington en octobre. Le Vatican a désormais une instance judiciaire chargée de juger les prêtres et évêques pédophiles, et ce, dans le cas des évêques qui couvrent des abus sexuels. La décision du pape François, qui a été annoncée ce mercredi, vient renforcer le travail de la Commission pontificale de protection des mineurs. Celle-ci avait d'ailleurs recommandé la mesure. Pour un éclairage, Chérubin Dorsil a joint le journaliste Albert Mianzoukouta de Radio Vatican.
D'abord, il faut préciser que nous sommes ici dans une session pleine de travaux de la commission des cardinaux, 9 cardinaux qui ont été choisis par le pape pour le conseiller dans la réforme de la Curie romaine. Et donc, c'est dans le cadre de cette session que la décision a été annoncée de cette commission. La commission, en fait, de protection des mineurs existe déjà depuis un peu plus de 3 mois au Vatican, un peu plus même. Ici, il s'agit de lui donner toute la garniture officielle, toute la garniture qui puisse faire qu'elle joue pleinement son jeu, en un mot commençant, tolérance zéro pour les prêtres et évêques pédophiles au sein de l'Église catholique. Et
cela répond aussi à des plaintes transmises par les congrégations concernant les évêques.
Très certainement, parce que l'un ou l'autre prélat a eu l'impression qu'il y avait comme une espèce d'impunité couvrant pas directement les pédophiles eux-mêmes, c'est-à-dire pas les auteurs des actes pédophiles, mais surtout les évêques et archevêques qui ont été tenus au courant d'un comportement de ce genre dans leur diocèse et qui ont eu jusqu'ici une attitude assez généralisée, celle de couvrir, sinon de fermer un œil, pas tous les deux, donc sur ces abus et de ne pas les dénoncer. Aujourd'hui, donc, les choses sont plus transparentes. Un évêque tenu au courant de cela doit saisir la justice.
On écoutait Albert Mianzoukouta. Le premier ministre grec Alexis Tsipras espérait rencontrer à Bruxelles la chancelière allemande Angela Merkel et le président François Hollande en marge du sommet de l'Union européenne et de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Il ne reste que 3 semaines à la Grèce pour réunir les fonds nécessaires pour ne pas faire défaut sur sa dette à la fin de juin, quand elle pourrait devoir rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Mais voilà, les dernières propositions de réforme d'Athènes pour obtenir une nouvelle aide financière ne correspondraient pas à ce qui a été convenu.
Soyez Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.